Bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est un rendez-vous un peu particulier que nous vous donnons aujourd'hui. On est au Chica, c'est un rendez-vous en direct. Donc je suis en compagnie de Lucie de Fréquence Mistral. Moi je suis Suzanne de GRCF, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc c'est un triste rendez-vous. Donc voilà, c'est un triste rendez-vous parce qu'aujourd'hui c'est une journée particulière. C'est une journée contre les luttes, enfin pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Alors il faut le savoir, hein, Lucie, je suis tombée sur des chiffres aberrants de l'ONU. Donc il faut le savoir, toutes les 10 minutes une femme ou une jeune femme meurt sous les coups d'un proche, d'un homme. Au bout d'une heure, c'est 144 femmes. Et à la fin de cette émission, plus de 210 seront assassinées. Donc aujourd'hui, ouais, vous l'avez compris, ça, c'est une question qui nous concerne tous, en tant que peut-être témoins aussi. Donc c'est une journée où on va essayer avec Lucie de vous emmener sur ce chemin de sensibilisation, de compréhension, mais aussi tout un dispositif qui va s'articuler pour accueillir des témoins, des témoignages, des victimes. Et donc je passe le micro à Lucie.
Eh bien déjà, bonjour Suzanne, donc Lucie de Fréquence Mistral. Merci d'avoir introduit Suzanne. Aujourd'hui, donc vous l'avez compris, tu l'as très bien dit justement, nous allons parler de la lutte contre les violences faites aux femmes. Nous faisons donc une émission spéciale en direct dans le hall du centre hospitalier de Gap, du FICAS de Gap. À notre micro, on va recevoir beaucoup de monde, à commencer par Angélique Lambert, directrice du CIDFF, qui est déjà à nos côtés. J'en profite pour vous saluer tout de suite. Bonjour Angélique.
Bonjour.
Et donc, comme on l'a dit, on va parler de beaucoup de choses, des violences faites aux femmes aujourd'hui, bien sûr, en ce 25 novembre, qui est une journée qui a été inaugurée par l'ONU en 1999, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, pour sensibiliser justement à ce sujet, Angélique, vous allez pouvoir nous parler dans quelques secondes. Et puis, bien sûr, nous recevrons également des élus, d'autres personnes du personnel hospitalier aussi. On l'espère, peut-être des interviews surprises et selon le passage, à des personnes qui pourraient peut-être, pourquoi pas, nous partager ce qu'elles savent sur ce sujet. Alors, Angélique, je me tourne, ça y est, tout de suite vers vous. Est-ce que vous pourriez justement, vous qui êtes directrice du CIDFF, donc je le rappelle, le Centre d'information aux droits des femmes et des familles des Hautes-Alpes, est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu le contexte historique, déjà dans un premier temps, de cette journée, je le rappelle, qui est donc qui a été inaugurée en l'honneur des sœurs Mirabal, qui étaient des militantes dominicaines. Est-ce que vous souvenez un petit peu de cette histoire? Est-ce que vous sauriez nous la conter ou c'est
alors,
une question difficile?
Oui, c'est une question difficile. Je ne vais pas forcément vous conter l'histoire, puisqu'effectivement, les sœurs Mirabel sont à l'origine de cette journée internationale. Et c'est important de bien indiquer le mot international, puisqu'effectivement, les violences faites aux femmes sont universelles, traversent toutes les frontières, n'ont pas de limites sur les questions d'âge, sur les questions de classe sociale, sur les milieux. Donc vraiment, c'est un sujet qu'il faut manipuler, qu'il faut verbaliser, faire de la communication. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a l'histoire et il y a aujourd'hui, malheureusement, la réalité bien encore présente sur la thématique des violences faites aux femmes. Peut-être en contexte, avant d'aller plus loin sur l'échange autour de cet événement du 25 novembre, c'est vrai que le 25 novembre, c'est une journée particulière, mais pour les associations d'aide aux victimes, je tiens à le préciser, le 25 novembre, c'est tous les jours, c'est au quotidien. Donc, il est bien certain que créer des événements, ça permet de rendre lisible, plus concret, de sensibiliser, de former, de donner des outils, à la fois pour le grand public, pour les professionnels. C'est aussi permettre aux victimes d'avoir une place particulière et de pouvoir aussi entendre que malgré ce phénomène dramatique qui laisse des traces et qui a des conséquences très graves, il est possible aussi de s'en sortir. Donc c'est vrai qu'on va aborder des sujets parfois tristes, complexes, lourds, mais je souhaite aussi que cette journée soit signe d'espoir pour ces femmes qui, on l'espère, un jour pourront vivre en toute égalité, sécurité, liberté. Et aussi un message d'espoir, puisque toutes ces manifestations, toute cette volonté à la fois des professionnels, des associations de terrain, et aussi un message d'espoir, puisque nous avons aussi des hommes qui s'emparent de cette thématique, qui se mobilisent, qui s'investissent, qui interrogent et qui acceptent de rompre avec finalement cette complicité silencieuse.
Alors moi j'ai une question, le CIDFF, donc c'est quoi? C'est une structure, c'est une institution, c'est une association, ça fonctionne comment?
Donc le CIDFF, c'est le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles. Nous sommes une association avec un agrément d'État rattaché au ministère des Solidarités, de l'Égalité. Nous avons également, depuis mars 2025, un agrément du ministère de la Justice. C'est important de rappeler ces agréments, puisque ça vient aussi indiquer toutes les réglementations auxquelles l'association est soumise et également les obligations que nous devons respecter. Donc une association rattachée à une fédération nationale à Paris et également une fédération régionale dont le siège est à Marseille. C'est très important puisque du coup nous ne sommes pas isolés. Nous avons des fonctions support qui nous accompagnent, qui nous forment, qui nous guident aussi et qui sont très actives, les deux fédérations notamment, pour aller rechercher certains financements au niveau de l'État et du ministère.
Et en termes de fonctionnement, moi je voulais savoir, vous êtes où en fait dans l'échelle, dès qu'il y a une victime ou on entend dire quelque chose, comment ça se passe chez vous?
Alors le CIDFF, en tout cas dans les Hautes-Alpes, il existe dans chaque département un CIDFF et sur certains départements deux CIDFF. Donc nous sommes situés au passage Montjoie, pas très loin de la gare. Comment nous trouver, comment solliciter le CIDFF? Plusieurs biais. Nous avons un site internet, nous faisons beaucoup de communications, d'événements, notamment avec Fréquence Mistral, où nous avons tout au long de l'année fait des émissions, justement pour parler du CIDFF et de ce que nous faisons au CIDFF. Le CIDFF peut être contacté directement par les victimes, par la famille, par des amis, par les professionnels de santé, de soins, que ce soit l'hôpital ou les professionnels de santé de ville, par les services du conseil départemental, par la préfecture. Vraiment, on a toutes les portes d'entrée possibles.
Et moi, je voulais aussi savoir un petit peu qui, justement, peut s'adresser à vous. Donc, on a compris un peu tout le monde. Mais est-ce qu'il y a des situations particulières qui sont des déclencheurs, des événements auxquels on se dit, ça y est, c'est le moment d'aller au CIDFF. Enfin bon, c'est pas comme si c'était un événement joyeux, forcément, mais c'est la personne à qui m'adresser, c'est l'association à qui m'adresser. Qu'est-ce qui fait qu'on peut se dire, c'est là qu'il faut que j'aille?
Alors, ça dépend. Si on regarde de l'angle de la victime, ça... Souvent, c'est quand la situation de violence de trop, c'est trop, c'est allé trop loin, on n'en peut plus, on a envie que ça change, donc ça peut être ça. Ça peut être, la victime a été sollicitée par l'école, puisqu'effectivement, des inquiétudes ont pu être verbalisées, des inquiétudes ont pu être observées. Souvent, pour les femmes qui sont victimes de violences, elles ne vont pas de prime abord faire la démarche pour elles. Souvent, la porte d'entrée pour se poser et aller réfléchir et essayer de sortir des violences, la porte d'entrée, c'est souvent les enfants. Puisqu'effectivement, aujourd'hui, la loi reconnaît les enfants qui grandissent dans des contextes de violences intrafamiliales, conjugales, sont reconnus comme des co-victimes de violences. Quelques chiffres, j'aime pas trop m'arrêter sur les chiffres, mais souvent ça permet de mieux cerner, de rendre plus concret. En 2024, nous avons eu 4 en France, 94 enfants qui sont devenus orphelins du fait d'un contexte de violence conjugale. Et nous avons eu en France 7 enfants tués dans le contexte de violence conjugale. Les violences conjugales sur les enfants ont des conséquences gravissimes, que ce soit sur leur santé, sur leur scolarité, sur leur épanouissement, leur bien-être et également sur la question de l'estime de soi. Et donc on a tout intérêt à se poser pour ces enfants-là, à les accompagner, à les aider, parce que c'est eux qui vont devenir les adultes de demain.
C'est très important de prendre en compte la place des enfants dans les violences. Et vous venez de très bien l'expliquer, ils sont justement co-victimes. C'est un terme qui est important à nommer. Est-ce que il arrive aussi que des personnes vous démarchent pour les enfants, c'est-à-dire des témoins vous démarchent pour les enfants, peut-être contact. Est-ce qu'il y a un contact avec le 119 par exemple?
On a régulièrement sur le CIDFF des appels de la famille. Ça peut être des grands-parents, ça peut être un oncle, une tante, une sœur, une amie qui effectivement s'inquiète de la situation de violence et vient solliciter une réflexion. Alors soit après avoir contacté les numéros de soutien et d'aide, soit parce qu'effectivement elles ont eu accès à la connaissance de l'existence du CIDFF et c'est souvent une première réflexion, une première alerte.
La démarche pour vous contacter, il faut qu'ils aillent trouver votre numéro sur le site, etc. Ou vous avez un numéro, parce qu'on sait qu'on a le 119, hein, les enfants, les adultes le connaissent bien, ce numéro.
Et puis le 3919, pardon, je me permets de rappeler aussi le 3919 pour violence
pour
à l'info.
Voilà, 3919 et ou le 119. Et vous, vous concernant, quel numéro il faut faire pour vous contacter?
Alors nous, on n'a pas de numéro.
Vous n'avez pas de numéro?
On a un numéro 0492. Je suis désolée, je ne vais pas arriver à le sortir de tête, mais voilà, en tapant sur internet CIDFF, en appelant la mairie, enfin les mairies, voilà, les communes, dans les gendarmeries, dans les commissariats, à l'hôpital, toutes les plaquettes et les coordonnées du CIDFF sont vraiment disponibles.
En général, la procédure quand on est témoin ou quand on voilà, c'est quoi? C'est d'abord on en parle à son médecin ou on appelle la police. C'est quoi les il y a des étapes clés? On peut évidemment directement vous appeler, mais bon, le CIDFF ça parle pas énormément quand même. Bon, on est là pour justement le valoriser et lui donner de la lisibilité, mais c'est quoi la première étape? Si moi j'observe une action de violence d'un jeune garçon sur une jeune femme, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour prévenir?
Alors juste pour revenir sur le numéro, j'ai eu un joker qui m'a donné le numéro, donc 04 92 55 33 98. Et pour répondre à votre question, il n'y a pas de procédure strictement définie qui va cadrer finalement comment solliciter, comment intervenir. Ça va vraiment dépendre de la situation, de l'analyse de la personne. Ça peut être un appel direct au CIDFF, et où je le redis, ça peut être par le médecin, ça peut être par le commissariat, par la gendarmerie. Vraiment, il existe beaucoup de portes d'accès. Ça peut être l'école, les assistantes sociales de secteur. C'est vrai qu'on travaille beaucoup, nous, avec les services du conseil départemental, les maisons des solidarités, puisqu'effectivement, au sein de ces structures, on trouve et on regroupe les différents services qui peuvent toucher les femmes, les enfants. Donc, il n'y a pas de procédure particulière.
Moi, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit au tout début, sur cette notion d'espoir dans la sensibilisation et dans cette lutte contre les violences faites aux femmes. Est-ce que c'est important d'avoir une forme de joie aussi, peut-être, dans cette sensibilisation et dans cette lutte qui semble assez difficile vu la gravité du sujet et en même temps peut-être nécessaire pour éviter d'être plombée, entre guillemets, si j'ose dire, par les faits, quoi.
Alors la réalité du quotidien, c'est que travailler dans une association d'aide aux victimes, c'est très lourd parce que nous avons à manipuler, à traiter, à porter, à accompagner des situations très complexes, très dégradées, où effectivement on est avec un public en détresse, en souffrance, que ce soit la victime directe, les enfants, la famille, parce que souvent l'entourage est démuni par rapport à cette problématique. Mais je tiens quand même à dire que, en tout cas pour les professionnels, il existe de l'analyse des pratiques, hein, des supervisions. C'est essentiel pour pouvoir bien accompagner sur la durée. Au CIDFF, je vais parler de mon association, de ma structure, on rit beaucoup, on partage beaucoup. Et tout au long de l'année, on essaie de créer, de participer à des événements où, bien sûr, la thématique est lourde, mais on va essayer aussi d'y amener un côté un peu plus léger, un peu plus doux. C'est essentiel.
Moi, j'ai une question quand même. Moi, je vais revenir sur du concret. Hein. Je suis désolée, je vais dans le dur. Hein, mais j'ai l'impression que c'est important pour nos auditeurs parce que moi, j'ai été confrontée à des témoignages et parfois, ils sont un peu démunis. Alors, quand on vous fait un signalement comme ça d'une jeune femme, voilà, qu'est-ce qui se passe? On vient vous voir, on dit voilà, j'ai été témoin régulièrement d'une voisine qui clairement se fait malmener par son conjoint. Vous, le process, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe quand on vient vous voir et qu'on vient faire un témoignage de ce genre-là?
Alors, il faut savoir que quand on parle de violence, alors en tout cas sur des femmes majeures, adultes, il y a toujours le choix de la personne, de la victime. C'est-à-dire que vous pouvez venir, mais si la victime ne souhaite pas qu'il y ait de démarches qui soient engagées, on ne va pas pouvoir décider à sa place. Sauf si on parle d'adultes vulnérables, où là, voilà, la loi est très claire là-dessus. Mais souvent, ça va être... On va essayer de donner les outils à la personne qui vient nous voir, si c'est pas la victime directement, pour l'aider finalement à peut-être accompagner la victime dans ce processus, ce cheminement, pour qu'elle puisse venir chercher de l'aide.
Puis je pense qu'on peut préciser qu'il y a plusieurs actions que vous menez aussi, vous accompagnez aussi sur le plan de l'emploi par exemple, la réinsertion par l'emploi, sur le plan de la santé aussi.
Alors le CIDFF a plusieurs missions. La première des missions qui est à l'origine de la création des CIDFF, c'est vraiment de permettre à tout un chacun d'accéder à ses droits, avoir une connaissance de ses droits. On a beaucoup de consultations juridiques tenues sur l'ensemble du territoire des Hautes-Alpes, où souvent ça va être la porte d'entrée, donc une question juridique, souvent en lien avec le droit de la famille. Et de ce premier entretien, de cette première consultation, il est fréquent que la thématique des violences apparaisse. Donc il y a tout un process pour amener aussi la personne à comprendre souvent qu'elle est victime et surtout à lui permettre l'accès à un autre possible. Voilà, le fait d'être victime de violence...
Alors je le rappelle, hein, il existe plusieurs formes de violence. Hein. Il y a des violences verbales qui ne laissent pas de marque. Il y a des violences comme ça, de manipulation, où on fait en sorte que la personne est complètement démunie, elle n'a plus accès à son compte personnel, on ne l'autorise pas à travailler, etc. Ouais. Enfin voilà, il y a plein de sortes de violences.
Les violences, tout à fait, elles sont de diverses formes. On a pour réflexe de parler des coups, des violences physiques, mais les violences, elles sont vraiment multiformes. Donc on a les violences donc, physiques, les coups, on a tout ce qui est le harcèlement, l'humiliation, on a les violences, comme vous l'avez dit, administratives, on n'a pas accès à ses papiers d'identité, on n'a pas accès, par exemple, à sa carte vitale, ce qui empêche la femme d'aller consulter un médecin et qui, peut-être, empêche la femme d'être repérée ou d'aller parler de ce qu'elle vit au quotidien. On a aujourd'hui, dans notre société, toutes les violences, cyberviolences, qui sont dramatiques et qui ont des conséquences très importantes. Nous avons tout ce qui est les notions de contrôle. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'emprise quand on parle de violence conjugale. Il y a aussi la notion aujourd'hui de contrôle coercitif où effectivement la femme est empêchée et limitée dans ses libertés, dans le choix qu'elle peut faire sur tous les pans de sa vie. Et la violence, elle est souvent aussi, elle passe à travers les enfants. C'est-à-dire que quand il y a de la coparentalité, de la parentalité, dans un contexte de violence, les enfants sont une vraie arme pour continuer d'atteindre la femme.
Et je me permets de rebondir aussi sur le fait qu'il faut faire réaliser aux victimes qu'elles sont victimes. Est-ce que c'est souvent un travail peut-être difficile et long? J'imagine que les femmes s'en rendent assez peu compte.
C'est très long. Alors, ça dépend des situations, mais souvent, quand elles sont installées dans cette relation de violence, il y a toute une stratégie des auteurs aujourd'hui qui est connu, hein, qui a été réfléchi, analysé. Donc il y a tout un système finalement chez l'auteur qui va empêcher la victime de se reconnaître elle-même victime, puisque il y a tout ce qu'on connaît sur l'inversion des culpabilités. Tu vois bien, c'est de ta faute. Si tu n'avais pas agi comme ça, j'aurais pas moi réagi.
C'est très insidieux, hein.
Tout à fait. C'est vraiment un process qui s'installe. Et au plus, la victime, elle a vécu longtemps dans ce système, dans cette relation de violence, au plus ça va être long d'accompagner la victime pour prendre conscience que ce qu'elle vit, ce n'est pas normal. Juste en quelques phrases, on a eu l'année dernière, on a parfois des situations où on se dit, et avec le plus grand des respects hein, pour les victimes, mais on apprend aussi chaque jour, et c'est ce qui permet d'améliorer nos prises en charge et nos accompagnements. On a parfois des situations, et je pense à une dame l'année dernière, où elle arrive jusqu'à une brigade de gendarmerie pour déposer plainte. Son dépôt de plainte va durer 8 heures. Oh. C'est-à-dire qu'elle va décrire 20 ans de relations de violence. Et c'est un peu comme une étude de cas. Un cas d'école qui nous permet, nous aussi, de toujours mieux décoder, de toujours mieux comprendre, puisqu'effectivement, 20 ans de violence, on a tout le process, on voit comment ça s'est mis en place, le choix de cette victime, le début de la relation, la naissance des enfants, et avec vraiment toutes les périodes et tout le cycle des violences pendant 20 ans. Imaginez pour sortir au bout de 20 ans le travail qu'il faut engager.
Et le déclic, quel a été son déclic ?
Le déclic a été les enfants qui ont parlé à l'école et donc une convocation de l'établissement scolaire qui est venu finalement exprimer que les enfants n'allaient pas bien et que les enfants avaient pu verbaliser des inquiétudes sur ce qui se passait à la maison et notamment des inquiétudes pour leur maman.
Alors là, c'est un partenaire intéressant parce qu'effectivement, à l'école, on en parle de ça, l'égalité des sexes, les violences faites aux femmes et aux enfants. Et du coup, il y a une éducation qui passe par les enfants et c'est eux parfois qui détiennent la clé. Et parce que eux, ils n'ont pas cette emprise parfois. Hein. Alors je dis pas tout le temps, mais ils arrivent généralement à échapper à cette emprise-là. Ils sont plutôt spectateurs. Mais voilà. Donc ça c'est un partenaire vraiment incontournable, l'éducation nationale.
Alors juste les enfants, c'est très compliqué pour un enfant de parler, de venir dire ce qui se passe à la maison parce que là aussi il y a la crainte,
il y a la loyauté aussi,
l'enfant est enfermé dans une loyauté, c'est-à-dire que même si le père est violent, il y a la question de la loyauté, des sentiments, de l'amour, donc c'est très compliqué. Il y a la question aussi de la terreur, de la peur des conséquences. Juste sur la question de l'éducation des enfants, le CIDFF a pour mission de promouvoir l'égalité entre les filles et les garçons. Donc nous faisons beaucoup de sensibilisation dans les établissements scolaires justement pour aborder la question de l'égalité des stéréotypes de genre, des violences, du consentement. Et on intervient chez les tout-petits. À partir de la maternelle, nous avons des outils spécifiques, des livres de contes où on va inverser les rôles entre les filles et les garçons puisque aujourd'hui, on sait que la violence, elle prend vraiment naissance dans ces relations finalement d'inégalité entre les filles et les garçons, entre les femmes et les hommes, et également dans ces rapports de domination qui sont très présents dans notre société et sur lesquels on est finalement formaté depuis tout petit, depuis notre naissance.
Eh bien, je pense que Angélique, qu'on va pouvoir vous libérer. Merci beaucoup pour votre temps passé à nos micros. Et puis, vient de nous rejoindre justement Madame Marie-Josée Allemand, députée des Hautes-Alpes. Merci encore, Angélique.
Merci beaucoup.
Et Madame Marie-Josée Allemand, vous êtes donc députée de la première circonscription des Hautes-Alpes. Vous venez de nous rejoindre justement pile. Vous êtes à peine arrivée qu'on vous a attrapé au vol. Donc vous nous avez rejoint sur ce plateau. Merci de votre présence.
Bonjour.
Avec nous. Bonjour. Et donc, vous vous en doutez, nous faisons un plateau sur la lutte contre les violences faites aux femmes, bien sûr. En ce 25 novembre, vous êtes présente ici au centre hospitalier des Hautes-Alpes pour cette sensibilisation organisée par l'hôpital et par le CIDFF. Vous venez d'arriver, donc on vous prend un peu au vol. Qu'est-ce que vous savez, vous, de cette journée de sensibilisation ? Est-ce que vous avez un petit peu des choses déjà ou est-ce que au contraire, c'est des choses qui s'apprennent au jour le jour, continuellement pour vous ?
Alors, on a quand même un groupe de travail à l'Assemblée nationale et on va déposer, alors je ne sais pas si ça sera fait aujourd'hui ou dans la semaine, mais on a une loi intégrale, justement, qui va être déposée par notre collègue Céline Thiébaud-Martinez, qui aujourd'hui posera une question au gouvernement, puisque on est journée, on est mardi. Et donc c'est important aussi de sensibiliser les politiques, parce que c'est aussi par la loi que ça passe. Et on a de gros espoirs, on a beaucoup travaillé sur cette loi, elle est prête. Elle va pouvoir être déposée et je pense qu'on en a vraiment besoin. On en a vraiment besoin parce qu'effectivement, ça se passe aussi par la loi, malheureusement.
Alors, madame la députée extraordinaire, une femme députée, ça ne doit pas être encore une évidence, parce que, alors je suis désolée, moi je regarde l'hémicycle parfois et je suis tout le temps assez outragée de voir encore certains de vos collègues avoir des attitudes sexistes envers les femmes députées. On a assisté à plusieurs esclandres et des remises un peu à leur place. Vous, en tant que femme députée dans l'hémicycle, comment ça se passe pour vous? Un beau témoignage pour nous.
Alors, il faut... Comment dirais-je ça vient aussi de la personnalité. Moi, j'ai une personnalité qui est, on va dire, assez forte et je ne me laisse pas faire. Et on est assez nombreuses dans ce cas-là à rien laisser passer, parce que ça commence aussi par là, hein, la remise en place des personnes qui ont tendance à dévier. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose qu'on ressent à l'Assemblée nationale. On n'est que des femmes. On n'est que des femmes et on doit faire... toujours un peu plus, mais comme la majorité des femmes dans leur travail, dans leur vie professionnelle, dans leur vie aussi syndicale, on doit toujours apporter la preuve par les faits qu'on est aussi capable de faire les choses, et voire peut-être mieux que certains, parce que c'est vrai qu'on a un engagement et ça se voit sur le travail qu'on produit. On a un engagement qui est profond. Alors je ne dis pas que les hommes dans leur majorité ne sont pas comme ça, mais on a quand même aussi un engagement fort, et cette parole, ce travail, ça se traduit dans des faits et on est plutôt pugnace, on va dire.
Bravo.
Alors madame la députée, pour revenir sur ce groupe de travail, justement, vous évoquez votre position de femme en tant que députée, est-ce qu'il y a uniquement des femmes dans ce groupe de travail?
Non, il y a des hommes aussi, et c'est... On voit quand même qu'il y a une prise de conscience. Alors c'est très long, évidemment, comme tout, puisque c'est quand même un bouleversement de la société. De MeToo, ça a été quelque chose de très fort pour tout le monde. Et ça a libéré quand même la parole. Alors on voit que... Alors est-ce que c'est parce que ça a libéré la parole qu'on voit l'augmentation des faits? C'est peut-être aussi...
On le sait plus,
voilà,
donc forcément...
On le sait plus, donc on hésite moins à en parler. Néanmoins, on aurait pu imaginer que les choses se calment, mais c'est absolument pas le cas. Un féminicide un jour sur deux...
Toutes les 10 minutes dans le monde. Hein,
exactement, voilà. Et dans notre pays, ça continue. Donc on ne devrait plus avoir ce genre de choses dans notre pays. Et malheureusement, ça continue. On le voit aussi, mais c'est pas que ça. C'est aussi l'égalité des salaires, c'est... La condition de la femme a encore de beaux jours devant elle pour évoluer.
D'où l'importance des journées comme aujourd'hui, le 25 novembre. Et puis bien sûr, pour dire l'évidence, également le 8 mars, évidemment la journée internationale pour les droits des femmes.
Mais ça devrait être toute l'année, en fait.
Toute l'année. Oui, absolument. La considération, on est des êtres humains au même titre que les autres. Et évidemment, donc je ne peux pas m'empêcher, je reviens sur cette histoire à l'hémicycle, où dès qu'une femme prend la parole, rapidement, certains députés taxent d'hystérie, parce qu'elles montent le son, etc. Mais évidemment, il y a du travail aussi bien de chacun et de chacune. À chaque fois que vous abordez un sujet, il y a un travail qui est profond. Donc ça prouve bien qu'il s'agit vraiment d'un travail vraiment avec l'éducation. Et donc quand dans votre cercle de travail, là, vous avez des députés qui viennent de différents horizons. Comment ça se passe?
Oui, c'est tout à fait transpartisan. C'est ce qu'on appelle une loi transpartisane, puisque pour qu'elle aille au bout, il faut que ça soit co-signé par des députés de tout groupe. Ça ne peut pas être qu'un seul groupe parlementaire. Donc voilà, c'est transpartisan. Il y a des députés hommes et femmes de tous bords. Et ça marche parce que cette loi, elle est prête, quand même une soixantaine de pages, donc il y a eu un gros travail avec les associations, avec les élus, et pas que, et puis avec les gens de tous bords, effectivement.
Tu vois, Lucie, il est là ton espoir,
cette joie, exactement.
Elle est là,
Tout à fait. Et j'imagine, est-ce qu'on peut avoir peut-être une idée, si vous pouvez nous en dévoiler quelques mots dans les grandes lignes de ce travail
Elle est extrêmement élargie pour toucher tous les, pour cocher toutes les cases, on va dire. qu'on n'est pas un pan de notre société ou de la problématique qui soit oubliée. Alors, elle est confidentielle pour le moment. Voilà, mais on reviendra vers vous pour la présenter. Voilà. Alors, on est vraiment... J'étais partie pour l'amener et puis il y a un gros confidentiel dessus. J'ai dit ah.
Bon bah donc on en saura plus quand elle.
Exactement.
Quand elle sera aboutie,
ça va arriver très vite. Et donc, puis l'objectif travail, c'est quand même aussi, il suffit pas de déposer une loi, il faut qu'elle soit débattue au Parlement et après il faut derrière les décrets d'application. Donc l'objectif c'est vraiment que ce soit fin prêt et que voilà, comme on dit, on va au bout.
Que ce soit donc que ça aille, comme vous venez de le dire, jusqu'au bout. Il y a eu tout un travail de terrain du coup pour l'élaboration de cette loi. Vous avez travaillé avec des
associations. Avec les associations, oui, on a eu énormément d'auditions au niveau de l'Assemblée nationale avec les associations. Tout confondu, on va dire, parce que c'est très très large. Vous verrez, c'est pas que, c'est vraiment pas que sur un pan de la loi. Et voilà, moi je suis. Très heureuse qu'on arrive enfin au bout, même si c'est jamais abouti, parce qu'il faudra toujours remettre, on aura toujours des choses à réadapter en mesure de l'évolution de la société. Mais c'est quelque chose qui, Céline Thiébaud-Martinez a vraiment fait un boulot incroyable, pour en arriver à cet aboutissement.
J'avais une question. Il y a quelques temps, on le sait, il y a une morosité financière du point de vue de l'État. Le CIDFF, il y a encore quelques temps, souffrait du manque de subventions. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire un peu là-dessus ? Je veux dire, le monde associatif est en souffrance parce que les subventions ne sont pas toujours au rendez-vous. Qu'est-ce qui va se passer là pour cette nouvelle année ? Est-ce que ce genre de structure primordiale, parce qu'on le voit, elles interviennent à tous les niveaux, sur tous les pans de la vie des femmes et des enfants. Comment vous allez pouvoir défendre le CIDFF de Gap ?
Alors, ça ne vous a pas échappé qu'on a quand même un petit souci au niveau du budget.
Oui.
Et donc... il faut voir comment ça on atterrit au niveau du Sénat sur le budget. Ça va revenir à l'Assemblée nationale et c'est là vraiment que le travail se fera. Mais après, il faut que dans notre département, et moi c'est mon poumon, c'est mon travail, c'est que notre département ne soit surtout pas oublié et on a besoin de ces structures, que ce soit le CIDF ou d'autres, parce que beaucoup de structures sont mises à mal. Et je pense que quand on est dans des grandes villes, c'est un petit peu moins compliqué que quand on est dans nos départements ruraux, parce que la ruralité est quand même bien oubliée
dans l'hémicycle, dans les cantons,
microcosme cantons. Parisien, on va D'accord. dire, il y a Paris et le reste du monde. Donc notre objectif, c'est vraiment de ne pas se faire oublier, de ne pas être le parent pauvre de la loi finalement.
Sur tous les points et y compris
sur
justement
tous les points,
sur cette lutte contre les violences. Et peut-être vous qui connaissez bien justement le département, qu'est-ce que vous observez comme évolution à ce titre-là, au titre de la lutte contre les violences ? Est-ce qu'il y a des choses qui changent au fil du temps que vous avez pu voir, ou peut-être même tristement des choses qui ne changent pas ?
Je pense que la prévention, c'est la meilleure de nos armes, parce qu'on voit sur l'évolution de nos enfants, par exemple. Moi, j'ai des enfants qui sont trentenaires et on voit quand même que la considération que portent nos enfants et leur génération aux femmes, mais pas que, on les voit dans l'implication de la vie de tous les jours, dans le ménage, dans l'éducation des enfants, on voit que ça avance. Et donc, je crois que c'est la meilleure des façons de faire, c'est de la prévention, de l'éducation. La présidente disait tout à l'heure qu'il fallait intervenir très tôt pour enlever les stéréotypes. Le rose, c'est pas que pour les filles, et le bleu, pas que pour les garçons. Déjà, il faut arrêter les voitures, les poupées. Bon, on arrête tout ça. On fait des choses qui sont non genrées. Et ça commence par ça, en fait. Ça commence par ça, par l'éducation qu'on donne à nos enfants. Sur tous les points, que ce soit familial, que ce soit religieux, que ce soit quel que soit le thème, il faut éduquer nos enfants.
Et du travail dès la petite enfance, et peut-être, je vais peut-être sortir un gros mot, mais une intersectionnalité du coup à aller chercher quelque chose, à aller voir dès l'enfance, et puis essayer d'attaquer le sexisme un petit peu aussi sur d'autres points, j'imagine.
Il faut pas hésiter, il faut prendre tout le panel et il faut y aller. Il n'y a pas que.
Alors moi j'ai, alors on, vous l'avez dit, hein, on est un territoire rural et les femmes maintenant vont sur tous les terrains hein, maintenant, hein, même dans le milieu agricole régulièrement. Hein, moi je vois le Dauphiné Libéré qui fait des articles sur ces femmes qui reprennent hein, des exploitations, etc. Est-ce que vous dans le milieu agricole vous avez vu aussi une évolution? Est-ce que les femmes sont un peu plus présentes?
Oui. Oui, oui, on le voit au niveau des chefs d'exploitation où les femmes, le pourcentage de femmes a vraiment explosé du fait aussi de l'amélioration de la loi parce que il y a une quinzaine d'années, le conjoint n'était absolument pas considéré et le statut du conjoint lorsqu'il a existé, ça a mis les femmes dans le monde agricole, ça les a remis en valeur. Enfin, je veux dire, elles sont indispensables. On est indispensables. Et j'ai pas peur de dire on, puisque j'en fais partie. Absolument. Moi aussi, je suis chef d'exploitation aux côtés de mon mari, alors que j'ai été conjoint pendant presque 30 ans et sans être reconnue. Et que lorsque vous regardez votre bulletin MSA, il y a marqué mère au foyer. Alors que non, vous avez participé à l'exploitation, vous avez participé au travail. Donc aujourd'hui, le statut de la femme en tant que chef d'exploitation existe. C'est beaucoup plus facile d'avoir ce statut-là à égalité avec les hommes. Et donc c'est vraiment la reconnaissance qui a fait exploser ces chiffres. Et aujourd'hui, on a beaucoup de femmes qui sont entrepreneuses, heureux, je ne sais pas comment on dit, mais enfin qui entreprennent. Et on le voit, je pense à Lucille Bernard-Raymond par exemple, qui mène tout ça d'une main de maître et qui, voilà, c'est quand même un superbe exemple pour nous et pour tout le monde. Et il faut vraiment que nos filles aujourd'hui c'est possible, voilà. C'est possible et c'est reconnu.
Bientôt on a les élections municipales avec cette obligation de parité. Qu'est-ce que vous entendez, vous, sur le territoire par rapport aux petites communes rurales aux... Je sais que les maires aujourd'hui sont en souffrance, hein, ils se sentent un peu abandonnés. Et là, avec des nouvelles listes plus ou moins qui apparaissent ou pas, les femmes ont du mal à se positionner, j'ai l'impression. Est-ce que c'est une impression qui est partagée?
Alors, moi, j'ai porté, pour mon groupe, j'ai porté la loi. J'étais, c'est moi qui rapportais pour le groupe. Et donc... j'ai entendu beaucoup de femmes élues dire enfin, enfin. Très peu de dire oh là là, comment on va faire, ça va être compliqué. Ben non, en fait, c'est la loi, donc on va l'appliquer. Et ça libère, en fait. Ça libère parce que beaucoup de femmes pensent encore qu'elles ne sont pas capables, qu'elles n'ont pas le temps, que c'est pas pour elles, que c'est plutôt la passe du conjoint d'être l'élu, on va dire. C'est lui qui doit officier dans la mairie. Et non, en fait. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a la place pour tout le monde. On est autant capable que les hommes. On a toute notre place. Et il faut que ces messieurs prennent, leur rôle de père, de conjoint. Et madame est en réunion, c'est monsieur qui officie. Voilà, les choses se font aussi.
Après, je suis désolée, là, je suis curieuse, j'aime bien aller dans des petits conseils municipaux, voir un peu comment les femmes, parfois il y en a une ou deux conseillères qui assistent à ces rendez-vous mensuels. Et je suis à chaque fois assez choquée de la violence verbale qui s'applique envers elles quand elles osent donner leur opinion, quand elles essaient de se positionner. Bon, c'est vrai qu'il y a une majorité d'hommes, mais j'ai l'impression quand même, une impression que je rapporte hein, de ce que j'ai vécu, que c'est pas évident en milieu rural d'être une femme dans un petit conseil municipal. Il y a une forme de violence verbale qui s'applique au quotidien. On le sait, hein, en milieu rural, les maires subissent énormément de pression hein, de par leurs concitoyens. Il y a une exigence. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une forme d'éducation à apporter aussi avec nos politiques de proximité?
Le fait d'être paritaire sur les conseils va apporter cette force, cette solidarité entre femmes pour pouvoir parler. Mais c'est compliqué dans les petites communes, mais c'est compliqué aussi à la ville de Gap. Je suis conseillère municipale à la ville de Gap, ça existe aussi. Ça existe aussi, c'est compliqué. J'ai eu plusieurs fois à rappeler certains adjoints la politesse, pour dire les choses comme elles sont. Ça existe de partout. Et aujourd'hui, c'est ce que je vous disais, il faut prendre confiance et dire les choses et ne pas laisser passer. Et ces messieurs doivent aussi prendre conscience ben, que quand il y en a un qui dérape, ils doivent venir aussi, ben, je ne dirais pas en secours, mais en complément du fait de rectifier les choses et qu'on n'a pas le droit, ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on est moins que. Voilà. Ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on est moins que.
Bravo, Madame Allemand. On adore vous recevoir à la radio.
Et puis, peut-être juste une dernière question avant de vous libérer. Est-ce que vous avez eu des témoignages de femmes qui sont venues vous voir en vous disant « Vous m'avez inspirée. Je me sens capable maintenant, en vous ayant vu, d'être moi aussi élue, de moi aussi participer à la citoyenneté, voilà, à la politique. »
La vie politique. J'ai un témoignage très personnel, celui de ma fille qui s'est engagée en politique il y a 5 ans sur les élections départementales. Elle m'a dit « Moi, j'ai envie d'y aller. »
Ça. Bravo.
Bravo et merci beaucoup. Merci, je le rappelle, encore. Marie-Josée Allemand, vous êtes députée de la première circonscription des Hautes-Alpes. Merci de nous avoir accordé ce temps sur ce plateau. On va pouvoir faire une petite pause musicale pour continuer cette émission en direct.
Merci.
Toi, tu as grandi sans rêver de sirène. Toi, tu as grandi sans rêver de sirène. Ton père te mettait des gifles et tu pensais je t'aime. Toi, tu as toujours refusé qu'on t'apprivoise. Et d'ailleurs, on dit de toi que tu n'es pas courtoise. Toi, tu t'es occupée de tous tes frères et sœurs. De ta mère aussi, d'ailleurs, quand elle était en pleurs. Toi, tu as aimé un homme passionnément. Mais tu ne sais pas pourquoi il est parti comme le vent. Vous êtes souveraine. Vous êtes souveraine. Vous êtes souveraine. Femme qui côtoyait la haine. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Toi tu voulais être musicienne, ça fait des années qu'à l'école tu t'entraînes. Lui il t'a dit, je suis désolée, mais à de ces malheureux on ne peut pas plonger. Alors tu t'es arrêtée et tu l'as oublié, mais tout au fond de toi la musique tu l'as gardée. Et parfois tu l'entends tout bas te chanter un air que la nuit en secret tu vas murmurer. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Vous êtes souveraine. Depuis toujours, tu sens que c'est un décorum. Toi, tu as décidé que pour être libre, tu n'aurais pas d'enfant, ce serait ton équilibre. Et pour toutes celles dont les complexes vies ne seront racontées qu'autour d'un verre à minuit, que les voix s'élèvent, qu'on prenne les arènes, et que dans les nuits s'élève le chant des sirènes. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait.
Et vous êtes toujours sur RCF Alpes Provence et Fréquence Mistral en direct depuis le centre hospitalier de Gap, le Chicas de Gap. Nous sommes Lucie, moi-même de Fréquence Mistral et Suzanne à mes côtés de RCF Alpes Provence. Nous sommes en direct pour une émission pour la lutte contre les violences faites aux femmes en ce 25 novembre, et nous allons tout de suite... Alors Suzanne, tu voulais prendre la parole, pardon, vas-y, je t'écoute.
Je t'interromps rapidement parce que le préfet est en train de prendre la parole, donc on va basculer directement sur son intervention.
On écoute tout de suite.
Qui est cette journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Je suis vraiment ravi de vous avoir ici présent et de montrer l'engagement de notre établissement en lien avec le CIDFF qui est là également pour cette journée, en tout cas cette matinée qui était au départ une matinée d'information et de sensibilisation. et qui sera aussi l'annonce que je vais faire dans quelques minutes de l'ouverture de notre Maison des Femmes. Mais tout de même, je voulais juste dire quelques mots sur l'importance qu'on a dans ce combat contre les violences faites aux femmes. On a souvent l'impression que les droits sont acquis, sont là, sont solides, et que des droits formels se traduisent par des droits réels et une égalité réelle. Et on voit bien toute la fragilité de ces droits. On sent bien que derrière se jouent des choses autres qui relèvent de notre conscience collective, de notre culture, de systèmes de rapports sociaux de genre qui sont souvent marqués finalement par l'anthropologie, par des modes de domination masculine, qui fait qu'aujourd'hui, en 2024, on a encore des situations de violence absolument abominables faites aux femmes, violence physique, violence sexuelle, harcèlement, violence numérique, violence intrafamiliale, avec des féminicides qui ne baissent pas et qui augmentent. Donc on a besoin de cet engagement de toutes et de tous. Et l'hôpital est en première ligne pour cela, évidemment parce qu'on est d'abord un lieu de soins, mais comme je le disais en aparté, on est aussi un lieu où on rencontre des parcours de vie. Et il est indispensable que nos soignants, avec l'empathie qu'ils ont, soient capables finalement de permettre la parole et la prise de parole. Que les femmes qui vivent des choses absolument épouvantables, parfois dans leur environnement familial, puissent s'autoriser à déposer. Et je crois que c'est important, évidemment, de rappeler cette mission. Alors, on va, début janvier, le 12 janvier plus précisément, on va ouvrir notre Maison des Femmes. Alors là, c'est un moment important parce que c'est une étape, une avancée majeure aujourd'hui dans notre département. Nous allons avoir notre Maison des Femmes construite avec un partenariat local très très fort, avec Madame Lambert qui est ici, qui s'est beaucoup impliquée. On sait que pour offrir un nouveau lieu d'accueil, il faut des volontés individuelles. On a la volonté évidemment du CIDF et de Madame Lambert. On a Madame Bernardin qui est là, le docteur Laval qui s'est beaucoup impliqué, Blanche Pujos qui n'est pas là aujourd'hui, qui est notre directrice adjointe et qui a beaucoup travaillé. Donc il faut ces volontés individuelles et puis il faut des volontés collectives. Et on a aujourd'hui autour de moi tous les partenaires, services de l'État, la justice, l'ARS qui est là, évidemment. Mais on a travaillé également avec les services de la police. On a travaillé avec les acteurs locaux, avec les associations. Et cette volonté collective pour mettre en place cette Maison des Femmes va enfin aboutir. Et encore une fois, le 12 janvier, on aura ce lieu unique de prise en charge globale, coordonnée pour les femmes, au troisième étage dans la maison, 100 mètres carrés, ouvert pour cet accueil-là, lieu d'écoute, lieu de prise en charge, lieu d'accompagnement, évidemment, lieu de soins, lieu où on trouvera aussi des ateliers pour pouvoir, évidemment, échanger. J'en suis formidablement ravi que ce lieu s'ouvre enfin. Voilà, ça sera une équipe pluriprofessionnelle qui sera partagée avec le CIDFF. Et nous vous accueillerons évidemment pour vous présenter les locaux à ce moment-là.
Bonjour, alors donc je suis Angélique Lambert, la directrice du CIDFF. Je vais parler au nom du conseil d'administration et de l'équipe. Nous sommes vraiment ravis, enchantés et on pourrait ajouter beaucoup d'adjectifs qualificatifs. Déjà, la journée du 25 novembre, je l'ai dit tout à l'heure, mais pour nous, c'est une journée importante. Mais le 25 novembre, c'est au quotidien pour nous, en tout cas pour les associations d'aide aux victimes. Donc c'est vrai que je suis particulièrement touchée de la présence de toutes quand même les institutions de notre territoire. Pour nous, cette journée, c'est vraiment une journée, on va dire, je vais employer un mot fort, mais de combat pour toutes les victimes, pour toutes les femmes. Et derrière tous les mots qu'on peut entendre, c'est vrai que nous, on pense à des histoires, on pense nominativement à des femmes, à des enfants que nous accompagnons chaque jour. C'est aussi une journée d'espoir. L'espoir parce que la thématique des violences, elle reste malheureusement fortement d'actualité. Sur notre territoire, on n'est pas épargné, puisqu'on souvent on entend dire ah oui, mais dans les Hautes-Alpes, la violence envers les femmes, qu'elles soient les violences sexistes et sexuelles, donc dans la sphère publique, mais aussi les violences intrafamiliales, conjugales, elles sont extrêmement présentes. Donc je ne vais pas parler très longtemps, mais en tout cas, le CIDFF est fortement engagé, et notamment sur cette ouverture de Maison des Femmes. C'est un projet, nous, que nous réfléchissons depuis l'année 2023, et le fait que ça se concrétise aujourd'hui, et notamment le 12 janvier avec l'ouverture, et que ça se concrétise vraiment en partenariat, en collaboration avec le CHICAS, c'est vraiment une victoire, et on attend beaucoup de ce lieu pour les victimes. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup. Bonjour à tous. Et je veux d'abord remercier l'hôpital, le CHICAS, pour l'organisation de cette conférence de presse ce matin, et puis l'invitation de la justice, qui évidemment a sa part à prendre, une part importante en lien avec tous les acteurs sur la question de la lutte contre les violences faites aux femmes. Les violences faites aux femmes, c'est d'abord une réalité statistique. Avec, vous le savez, des féminicides qui sont en augmentation, avec, au niveau du département, des chiffres 2025 qui seront consolidés et qui seront exposés au cours de l'audience de rentrée de janvier, mais une augmentation des violences en général de l'ordre de 4,8%, dont les violences intrafamiliales, et puis, en termes d'activité pénale, un déferrement sur trois, une comparution immédiate sur trois qui est liée aux violences intrafamiliales. Les violences faites aux femmes, c'est aussi une réalité très très concrète. Moi, je suis de permanence cette semaine. Hier, il y a eu deux dossiers de violences au sein du couple, avec une comparution immédiate, un placement sous contrôle judiciaire, et ce matin, un autre, et peut-être encore demain, un autre. Donc, on est dans cette réalité-là très très concrète. Et puis, c'est évidemment une réalité vécue par les femmes victimes de violences. Et je crois que la Maison des Femmes, elle est vraiment au cœur de cette question du vécu et de la protection et de la meilleure protection. Il me semble, parce que le parquet a suivi évidemment et a participé aux réunions de préparation, il y a vraiment deux idées fortes dans cette création de la Maison des Femmes. Il y a à la fois l'idée que la prise en charge, elle doit être la plus rapide et la plus protectrice possible, donc une unité de lieu, une unité de temps, et l'ensemble des acteurs présents autour de la victime. Et la deuxième idée, et le parquet a évidemment sa part dans cette dynamique-là, c'est la question de la coordination des acteurs, de l'échange d'informations. Et on voit bien que la façon dont a été construite cette Maison des Femmes, elle a été construite autour d'échanges, autour de coordination. Et quand on voit les gens présents aujourd'hui, on voit bien qu'au niveau du département, toutes les strates ont été, sont intervenues, se sont impliquées, et que cette dynamique, elle est vraiment à l'œuvre. Et dans ce domaine-là des violences intrafamiliales, il y a vraiment un enjeu de communication et de coordination. On l'a vu dans beaucoup de dossiers tragiques de féminicides, c'est parfois parce qu'une information importante n'a pas été donnée à celui qui pouvait la traiter. Alors évidemment, je parle des féminicides et l'actualité est terrible, donc il y a énormément de progrès à faire, collectifs, mais je crois que le mouvement qui s'est enclenché il y a quelques années, il ne s'arrêtera pas, et que le jalon posé par la Maison des Femmes, c'est un jalon extrêmement important, et dans le projet de la Maison des Femmes, comme dans la lutte contre les violences faites aux femmes, la justice prendra sa part, prend déjà sa part, et continuera évidemment à s'impliquer avec tous les acteurs présents ce matin autour de moi.
Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis là en tant que députée, et en tant que députée, mon rôle, c'est de faire les lois. Et donc, nous avons une loi intégrale qui va arriver et qui va être déposée très rapidement sur les violences faites aux femmes, mais pas que, les violences en général. Donc, c'est Céline Thiebaud-Martinez qui est porteur de ce texte. On espère pouvoir la poser. On aimerait bien le faire cette semaine, en vrai. Ça serait super bien. Donc voilà, donc c'est quand même, c'est aussi vous apporter quelque part ce volet législatif dont on a besoin aussi, parce que il faut ouvrir la parole, mais il faut derrière qu'il y ait des actes concrets et que la tolérance zéro ne doit plus exister. Donc vous l'avez dit, les violences, c'est une femme sur deux, c'est quasiment un féminicide tous les deux jours. Donc aujourd'hui, on ne peut plus faire comme si ça n'existait pas. La parole, elle a été libérée. Et on aurait pu espérer que le fait de libérer la parole, que les uns et les autres sachent que c'est beaucoup plus aisé, entre guillemets, de parler, ça se calme, mais pas du tout, en fait, pas du tout. Donc, ça continue, ça augmente, vous l'avez dit, madame la procureure, ça augmente chez nous aussi, on n'est pas épargnés dans nos territoires ruraux. Et donc, il faut absolument qu'on apporte un volet législatif à tout ça pour que faire comprendre, si on n'arrive pas à le faire comprendre de manière aimable, faisons-le avec la loi, puisque finalement, c'est aussi dans la répression qui fera que peut-être on arrivera à diminuer ces chiffres. Et puis, c'est aussi, vous l'avez dit aussi tout à l'heure, c'est aussi la prévention. Il faut qu'on éduque nos enfants, c'est très important, parce que ça passe aussi par... On voit, moi j'ai 3 enfants trentenaires, on voit aujourd'hui que les choses changent, que ça évolue, qu'ils n'ont pas forcément la même image que ce que nous, notre génération, pouvait porter. Et il faut continuer à éduquer les enfants dans nos écoles parce que c'est aussi là que ça se passe. Arrêter aussi, je le disais tout à l'heure, le rose et le bleu, il faut arrêter. Voilà, ça passe aussi par là, ça suffit. Tout le monde doit être d'égaux, hommes et femmes. En politique, c'est aussi compliqué parfois. On le voit aussi qu'on est obligé de recadrer certains députés qui dérapent un petit peu. Encore récemment, encore la semaine dernière. Ce n'est plus tolérable, ce n'est plus acceptable. Aujourd'hui, il faut que ça cesse. Voilà, c'est juste ce que je peux vous apporter en tant que députée. C'est le manière législative qu'on va faire au niveau de l'Assemblée nationale.
Monsieur le directeur général, merci beaucoup pour votre accueil. Madame la présidente, vous formez un binôme d'une efficacité qui est reconnue. Madame la procureure de la République, madame la députée, madame la procureure de la République, madame la directrice du CIDFF, mesdames, messieurs, une longue série d'abord pour éclairer une fois de plus ce phénomène. 2019-146, 2020-102, 2021-122, 2022-118. 2023, 96. 2024, 107. Effectivement, vous l'avez compris, il s'agit du nombre des femmes tuées par un proche, un époux, un conjoint. En 2025, pour cette semaine, cette seule semaine, Zaya en Isère, Béatrice dans les Ardennes, Mélina en Gironde, Élodie dans le Gard, Laure dans le Doubs. 5 femmes, cette semaine, sont mortes sous les coups de leur conjoint, de leur mari, de leur ami. Et nous voyons bien là que nous sommes dans un phénomène qui ne veut pas en réalité diminuer, qui s'installe dans une grande complexité en réalité de relations, parce que au-delà de la violence faite aux femmes, il s'agit de violences qui s'expriment dans la complexité d'une relation qui généralement est une relation familiale, violente, agressive, dans le quotidien, et qui, évidemment, à un moment donné, aboutit à un décès, mais aboutit surtout à la destruction d'une cellule familiale, dans la souffrance, dans la maltraitance, dans une relation qui, psychologiquement et parfois physiquement, traduit de la violence du quotidien. Je me félicite, au nom de l'État, de voir autant d'acteurs réunis autour de ce phénomène qui, encore une fois, ne veut pas régresser. L'État y prend toute sa part, le centre hospitalier, la justice, représentée ici par Madame le procureur de la République, la police, la gendarmerie, l'articulation avec ceux qui en sont des spécialistes. Et je veux remercier le CIDFF d'être aux côtés de l'État dans les missions de prévention, dans les missions de prise en charge, pour aboutir aujourd'hui, en tout cas dans quelques semaines, à l'inauguration de cette maison hospitalière des femmes, qui est un espace, vous le disiez, madame la procureure de la République, pluridisciplinaire, dans lequel cette offre de services complète par des professionnels d'un ensemble de domaines de compétences trouverons à accompagner les personnes victimes. C'est une responsabilité qui est une responsabilité collective. Madame la Aurore Berger, la ministre qui est en charge de ce sujet, annonçait également son intention de proposer en Conseil des ministres et au Parlement une loi cadre en 53 mesures visant à mieux former, mieux détecter, mieux prévenir et mieux sanctionner. Non pas que ce sujet soit exempt jusqu'à présent de cadre normatif. Régulièrement, les gouvernements successifs sont intervenus dans ce domaine. Et le phénomène n'a pas régressé en réalité. Il est mieux connu, il est mieux sanctionné. Et vous le disiez, Madame la députée, les parlementaires eux-mêmes s'intéressent à la façon dont, de façon plus globale, vous évoquiez une loi intégrale, la ministre évoque une loi cadre. Il s'agit bien de donner un cadre qui soit plus complet, plus intégral à un sujet, encore une fois, qui doit tous nous mobiliser et qui doit mobiliser l'ensemble des instruments qui ont été identifiés pour le faire régresser. Je me félicite encore une fois que dans le département des Hautes-Alpes, ici même à Gap, à Briançon, avec le soutien de la région et également grâce au concours compétent du CIDFF, une nouvelle structure Maison des Femmes soit également prochainement inaugurée. Pour clore mon propos et au-delà de féliciter l'ensemble des acteurs qui vraiment ont travaillé autour de ce sujet, qui sera du reste renforcé par la présence d'un médecin légiste grâce à la volonté déterminée de l'ensemble des acteurs qui sont derrière moi. Je veux lancer un appel en conclusion. Les violences intrafamiliales, les violences faites aux femmes, ça n'est pas l'affaire ni seulement des femmes victimes, ni seulement des auteurs, mais d'une société dans son entier. Un voisin, un ami, un parent, un collègue qui détecte, comprend, ressent, doit impérativement devenir un des acteurs de cette chaîne. Et si ceux qui sont derrière moi se sont unis pour cela, je crois que la société dans son ensemble doit s'en saisir pleinement. C'est un appel à la mobilisation générale. Merci beaucoup.
J'ai fait rentrer eux toute la semaine. Y'a mon plat sur la CP et t'as le seum. J'suis sous le seum, j'ignore ces pétasses. Pop dans banjo quand t'es jolie casse.
J'suis dans la suite et pas n'importe laquelle. Présidentielle et non personne à ken. La jolie, 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 jolie go. J'connais le SEV qui souhaiterait donner le go. Un peu saoulé, j'suis dans l'automate. Maman est fière, donc le reste m'en tape. Ils pensent à WAM, mais j'suis trop loin dans le top. Merci au steak qui fait gonfler l'automate. J'ai fait rentrer eux toute la semaine. Y'a mon plat sur la CP et t'as le seum. J'suis sous l'scène, j'ignore ces pétasses. Pop dans un tour quand t'es jolie garçon. Est-ce que tu pourrais me dompter? J'ai cher, j'suis dans le viseur du ganté. J'suis dans le vendo. Tu comptes pour moi dans le vendo. D'un coup, d'un dodo. On a des jolis, jolis, jolis beaux. Là, je suis dans le dodo, t'aimes bien. Oui, mais d'abord, on voit les toutous. T'aimerais que je sois ton doudou. J'ai pour habitude de consommer le love comme pétou. Je dis oui au cash, mais boy, non, pas touche. Tu me dis, je suis sauvage à quai. Je suis pas loin de la tête. J'aime quand tu dis reste. Je te fais tourner la tête et t'as des vertiges. Je dois être sûr de toi comme je suis sûr de la certi. J'ai fait rentrer eux toute la semaine. Y'a mon plat sur la CP et t'as le seum. J'suis sous le seum, j'ignore ces pétasses. Pardon d'un jour quand t'es jolie casse. Est-ce que tu pourrais me dompter? J'ai charge, j'suis dans le viseur du ganté. J'suis dans le véno. D'un tout, d'un dodo. On a des jolis, jolis, jolis beaux. Dis-moi qui pourrait me dompter? J'ai charge, j'suis dans le viseur du ganté. Pour moi dans le véno. D'un tout, d'un dodo. On a des jolis, jolis, jolis beaux. Elle passe et tant d'eau. Des jolis, jolis, jolis go.
Bonjour, chers auditeurs, auditrices. Donc, toujours en direct depuis le Chicas avec ma collègue de Fréquence Mistral, Lucie. Nous avons l'honneur d'avoir à notre table, à notre micro, monsieur le préfet. Bonjour.
Bonjour, madame.
Alors, c'est une triste journée. Hein. Vous avez évoqué des chiffres là tout à l'heure pendant la conférence. Donc, c'est une journée aussi internationale, c'est ce qu'on disait. C'est une femme qui meurt toutes les 10 minutes dans le monde. Aujourd'hui, monsieur le préfet, ça fait combien de temps que vous êtes sur notre territoire des Hautes-Alpes ?
Ça fait presque 3 mois, jour pour jour.
3 mois, et donc j'imagine que de toute façon, c'est, comme c'est une cause nationale, voire internationale, c'est un sujet que vous avez déjà abordé précédemment sur d'autres mandats. Quel regard vous portez-vous sur le travail fait dans les Hautes-Alpes aujourd'hui ?
D'abord, je constate que dans les Hautes-Alpes, il existe une mobilisation qui est une mobilisation collective. D'abord de l'État, avec l'Agence régionale de santé, le centre hospitalier de Gap et qui rayonne sur l'ensemble de la communauté médicale, la justice, madame la procureure de la République, et puis le monde associatif, le CIDFF, entre autres, qui assemblent au fond leurs compétences pour lutter ensemble contre un phénomène qui est inacceptable, mais qui, je le soulignais tout à l'heure, perdure et se maintient.
Et monsieur le préfet, vous avez tout à l'heure évoqué pendant votre prise de parole à l'instant une impression de droit acquis sur les droits des femmes. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur ce point-là justement ?
J'évoquais la complexité de ce phénomène qui n'est pas seulement un phénomène de violence contre une femme, mais qui est un phénomène complexe de violence habituelle dans un environnement familial où un environnement interpersonnel, agressif, violent au quotidien, qu'il s'agisse de violences psychologiques ou de violences physiques qui aboutissent le plus souvent à des violences physiques. Et j'observe que ce phénomène, au fond, dans le huis clos de la relation des personnes, aboutit à ce que le nombre des femmes victimes de violences, en réalité, ne diminue pas. 5 femmes sont décédées cette semaine, en Isère, dans les Ardennes, en Gironde, dans le Gard, dans le Doubs, et combien d'autres encore demain. Je le disais, ce phénomène ne doit pas rester dans le huis clos familial, dans le huis clos des domiciles, et c'est une véritable mobilisation de la société qui doit à la fois repérer, détecter, signaler, accompagner et évidemment naturellement sanctionner.
Et vous parlez justement de sanctions. En tant que préfet, je ne peux pas m'empêcher de penser justement aux forces de police. Comment est-ce que vous souhaitez accompagner justement les policiers, les gendarmes pour les aider à cette prise en compte des violences faites aux femmes ?
Alors comme vous le savez, hein, la sanction, c'est une sanction pénale. Elle est entre les mains de la justice. Même la procureure de la République était là pour témoigner de la détermination de la justice à poursuivre de manière systématique les policiers et les gendarmes sont très mobilisés. En réalité, les situations intrafamiliales sont leur quotidien. Ils sont chaque jour appelés pour intervenir dans des conflits interpersonnels, souvent familiaux, extrêmement complexes, et qui appellent au fond, un traitement très spécifique. La Gendarmerie nationale a créé dans chaque département une maison des familles qui vise complémentairement à la maison hospitalière des femmes que nous allons inaugurer en janvier, à accueillir, prévenir, informer, détecter et naturellement créer les conditions des poursuites et des sanctions pénales.
On fait souvent référence au fait que quand les femmes vont dans une gendarmerie ou dans un commissariat de police faire un témoignage, il y a encore quelques années, c'était complexe. J'imagine que maintenant, il y a eu une prise en compte de ces témoignages-là. Il y a une formation pour tous ces gendarmes et ces policiers pour accueillir ce genre de témoignages ?
Oui, il existe des formations dès les formations initiales en école de gardien de la paix ou de sous-officier de gendarmerie, ainsi que de la formation professionnelle continue tout au long de la vie professionnelle. Je citais pour la gendarmerie nationale ce sujet des maisons des femmes, il en va de même dans la police nationale. Il reste, et c'était le début de mon propos, qu'il s'agit non pas seulement de violence, mais de violence dans un environnement de huis clos, familial, dans des systèmes de relations extrêmement complexes qui imposent évidemment une qualité d'écoute, une qualité d'accompagnement et de recueil de la parole très spécifique. Au sein de la police et de la gendarmerie, des enquêteurs sont formés pour traiter spécifiquement de ces domaines. Sans doute, devons-nous encore progresser, évidemment, compte tenu de la persistance de ce phénomène.
Vous évoquiez un huis clos. Le huis clos peut être aussi dans le milieu du travail. C'est une forme de huis clos aussi qui s'exprime par le harcèlement. C'est très insidieux aussi. Ça peut pousser au suicide. Il y a des femmes comme ça qui meurent aussi parce qu'il y a eu du harcèlement au travail. Et pareil, ce genre de prise de témoignage, ça requiert effectivement une forme de psychologie. Est-ce que vous avez une cellule psychologique aussi pour accompagner vos agents sur le terrain ?
Vous évoquez deux sujets. Il y a le sujet des violences sexuelles et sexistes sur le lieu de travail et le sujet de l'accompagnement des forces de l'ordre. Ils sont de manière distincte. D'abord, le droit du travail a beaucoup évolué et les juridictions ont elles-mêmes confirmé que ces actes qui pouvaient jadis paraître anodins, mais qui constituent des violences sexistes, sexuelles, par les gestes, les actes, la parole sur le lieu de travail, constituent des violences habituelles et doivent être sanctionnées. Elles aboutissent le plus généralement au licenciement de l'auteur. Et je veux souligner là encore que ce phénomène, dans le domaine professionnel, aujourd'hui, est tout à fait inacceptable et systématiquement sanctionné. Pour ce qui concerne votre deuxième question, l'accompagnement psychologique des forces de l'ordre, si je comprends bien ce que vous me demandez, il existe évidemment des cellules psychologiques qui sont régulièrement amenées à accompagner les forces de l'ordre lorsqu'ils sont exposés à des scènes, soit des images particulièrement troublantes. Et vous avez raison de le souligner, les violences intrafamiliales qui aboutissent également à des décès d'enfants, à des décès de femmes, sont des situations qui peuvent être très choquantes. Oui.
Et puis, monsieur le préfet, une dernière question avant de vous libérer et de vous remercier pour votre prise de parole à notre micro. Vous, alors pour dire une évidence, vous êtes un homme, vous êtes le préfet des Hautes-Alpes. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à nos auditeurs, plutôt nos auditeurs masculins, pour les encourager justement à lutter contre les violences faites aux femmes ?
Je vais vous dire deux choses. La première, c'est que les violences faites aux femmes sont une responsabilité collective de ceux qui en sont les auteurs, de ceux qui en sont les témoins ou de ceux qui pourraient disposer d'un signalement, d'une information et qui ne la transmettent pas. Et donc, j'incite à une mobilisation collective autour de ce sujet. J'invite dans le rôle éducatif que nous remplissons chacun, soit directement ou indirectement, à inculquer ces principes fondamentaux que sont l'égalité entre les hommes et les femmes, la nécessité du respect dans le dialogue, dans la société et au fond le respect de chacun comme étant son égal, que nous perdons sans doute beaucoup de vue dans une société éruptive, fragmentée, qui a besoin de retrouver la voie du dialogue et de la paix.
Monsieur le Préfet, je le rappelle, vous êtes en direct sur RCF Alpes-Provence et Fréquence Mistral. Merci beaucoup d'avoir participé à ce plateau à l'occasion du 25 novembre, journée de lutte contre les violences faites aux femmes. On va vous libérer et de notre côté faire une courte pause musicale avant de passer à la suite. Merci.
Merci beaucoup.
Merci.
Vous êtes toujours sur RCF Alpes-Provence et Fréquence Mistral Gap en direct depuis le centre hospitalier de Gap à l'occasion du 25 novembre, journée de sensibilisation aux luttes contre les violences faites aux femmes. À nos côtés vient de nous rejoindre le directeur du centre hospitalier de Gap. Bonjour à vous.
Bonjour à vous, et merci de m'accueillir.
Et merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Alors, je viens de le dire, vous êtes le directeur donc, du centre hospitalier de Gap. Je vous ai invité à venir sur notre plateau puisque au centre hospitalier, il y a ce projet qui est porté avec, en partenariat avec le CIDFF de Maison des Femmes. Est-ce que vous, comment est-ce que vous voyez cette inauguration qui aura lieu en 2026? Quelle est votre vision sur ce projet-là?
Alors d'abord, ma vision, c'est que c'est une avancée quand même majeure. C'est-à-dire on était un département qui n'avait pas de Maison des Femmes et qui n'avait pas de Maison de Femmes hospitalière. Voilà. Et ça, c'est un point important parce que ça signifie que nous allons avoir la possibilité d'offrir une prise en charge médicale en urgence pour toutes les femmes qui se présenteraient à nous, soit en urgence, soit sur, orientées par un partenaire. Donc ça, c'est un point absolument formidable. Et surtout, c'est une maison des femmes qui se veut pluridisciplinaire, pluriprofessionnelle, avec un guichet unique qui permettra, une fois la première consultation réalisée, de pouvoir aussi répondre à tous les besoins d'accompagnement psychologique, d'accompagnement social, évidemment, qui seront utiles, d'accompagnement juridique, parce que souvent, dans ces violences intrafamiliales, on a aussi beaucoup de précarité, on a aussi beaucoup de difficultés socio-économiques et qu'on a besoin d'avoir un regard complètement globalisé et complètement coordonné pour assurer évidemment le meilleur suivi possible et la meilleure prise en charge possible.
Alors, je me doute que votre équipe est formée. Comment s'organise l'hôpital des urgences quand on sent qu'il y a une suspicion de violence, etc. Comment ça se passe chez vous, cette prise en charge?
Ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'hôpital est un lieu de soins qui ne doit pas être un lieu simplement où se joue une expertise, d'organes ou de spécialistes. C'est-à-dire qu'avant tout, on essaie d'accompagner le plus possible nos professionnels dans l'écoute nécessaire pour pouvoir permettre aux femmes de s'autoriser à déposer. Voilà. Donc, l'enjeu pour nous est de permettre à nos professionnels de pouvoir, et la Maison des Femmes sera aussi un levier de ça, parce que ça transforme complètement le regard et les pratiques, de pouvoir être outillés pour pouvoir détecter le plus possible ce qui peut se jouer derrière ce qui peut être présenté comme une simple chute ou un accident domestique. Voilà. Donc l'enjeu, c'est de faire de l'équipe de la Maison des Femmes aussi cet espace qui permet de former tous nos professionnels à détecter, repérer ce qui se joue au quotidien. Donc on a évidemment la formation où on a engagé des actions de formation des diplômes universitaires, notamment c'est le cas du docteur Laval, hein, qui est aux urgences et qui est urgentiste, pour pouvoir être à la manœuvre sur ces situations-là très complexes.
Et Suzanne, j'y pense, tu évoquais tout à l'heure avec monsieur le préfet l'importance du cadre de travail aussi dans les cadres de violence. Est-ce qu'il y a des choses qui sont menées à l'hôpital pour justement sensibiliser aux violences dans le cadre du travail?
Oui. Alors ça, c'est un point important, c'est-à-dire les violences sexistes et sexuelles au travail. C'est, en tout cas, à moi, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. J'ai été longtemps de RH et je viens d'un établissement qui a été le premier établissement qui a été labellisé égalité professionnelle. Voilà, c'était l'hôpital de Thuir. Et souvent, on peut se dire que la labellisation, c'est quelque chose d'un peu cosmétique et d'un peu marketing. Mais en réalité, ça transforme profondément nos organisations. Ça transforme profondément nos pratiques. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure en introduction de la conférence. C'est-à-dire que aujourd'hui, si on s'en tient à regarder le cadre réglementaire dans lequel on vit et législatif dans lequel on vit, ben finalement, tous les outils sont là pour assurer le droit des femmes. Dans la fonction publique, finalement, il n'y a même pas d'inégalité professionnelle qu'on pourrait imaginer, puisque nos grilles d'avancement sont les mêmes que vous soyez un homme ou une femme. Voilà. Mais pourtant, quand vous regardez la réalité des choses, ben, qu'est-ce que vous observez? Vous observez des plafonds de verre, vous observez que se jouent quand même dans les rapports de genre des formes de violence sexistes qui sont souvent étiquetées finalement un peu de grivoiserie ou un peu de culture, et qu'il faut complètement déconstruire ça. Et la labellisation homme-femme, c'est aussi un moyen de transformer en profondeur la culture et les rapports sociaux de genre. Donc à l'hôpital ici, on n'est pas encore labellisé, mais en tout cas, c'est un objectif que j'ai fixé à mes équipes en disant il va falloir qu'on y aille. Ça n'empêche que l'hôpital s'est engagé dans les violences sexuelles et sexistes au travail à travers un dispositif de signalement. Donc ça, c'est important. La première des choses, c'est de savoir à qui je m'adresse. Voilà. La mise en place d'une cellule de veille qui traite les situations complexes au travail, hein, de difficultés psychosociales, mais qui est aussi un lieu d'accueil de la parole pour pouvoir ensuite orienter vers les bons dispositifs. Et puis ensuite, on a tout un dispositif de formation de tous les professionnels pour pouvoir être sensibilisés et puis aussi pouvoir comprendre, détecter et surtout oser parler. Parce que, l'expérience que j'ai du sujet, c'est que si on n'autorise pas la parole, si on ne libère pas la parole, on sait très bien que dans les rapports soignants-soignés ou soignés-soignés, on a des choses qui s'enquistent et qui ne se disent pas. Voilà, avec des situations extrêmement violentes qui perdurent.
Oui, parce que ce qui habite souvent les gens quand ils sont comme ça violentés ou harcelés, c'est la honte. Ils ont
Exactement.
Honte souvent.
Il faut inverser le stigmate.
Voilà.
C'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de se dire, c'est pas moi qui suis responsable de ce que je vis, mais c'est l'autre. C'est l'autre ou c'est le système dans lequel je suis. Voilà.
Il est important hein, d'être au clair. La violence, c'est zéro violence, qu'elle soit verbale. Enfin, il y a pas de seuil de tolérance en
non.
fait. Hein,
il faut faire baisser le seuil d'acceptabilité. C'est ça moi ce que j'ai vécu, on me dit souvent, mais ça c'est de la grivoiserie. Mais on n'est pas dans de la grivoiserie. On est dans de la violence sexiste. Mmh. Et finalement, la frontière entre la blague. Et l'agression, elle est extrêmement ténue, extrêmement fragile. Et c'est pour ça qu'on se doit absolument, et c'est pas facile parce qu'on l'a tous vécu, on a tous vécu une réunion, même un espace privé où il y a une blague, où il y a quelque chose qui se joue, et on n'ose pas dire. Parce que si on dit, finalement, on se met un peu en marge. Voilà. Or, il faut amener chacun à pouvoir dire,
bah, dire
et c'est arrêter.
Dire, c'est aussi faire l'aveu de faiblesse. Voilà, ça m'a blessée. Et on est une société où il n'est pas toujours évident d'afficher une faiblesse et de dire, en fait, ce que tu viens de dire m'a profondément dérangée, blessée.
Exactement.
Et, alors qu'aujourd'hui, non, voilà, on peut... Alors, on est dans un contexte un peu étrange quand même, ces 10-15 dernières années, où il y a une libération de la parole, en bien, mais aussi dans des extrêmes, dans les réseaux sociaux, etc. Il y a une violence un peu décomplexée et il semblerait qu'il va falloir faire un énorme travail aussi à ce niveau-là, c'est-à-dire l'expression, la pudeur, jusqu'où, comment. Ça va être un gros travail aussi d'éducation.
Encore une fois, quand on a beaucoup travaillé sur la labellisation homme-femme dans le précédent établissement dans lequel j'étais, souvent on était dans quelque chose un peu... On faisait des PIMS, vous savez, pour dire nous on combat les violences faites aux femmes. Mais en fait, avec nos référents égalité professionnelle, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait attaquer les rapports sociaux de genre. C'est-à-dire c'est le culturel qu'il faut attaquer. Voilà. Parce que si on n'attaque pas ça, en fait, on reste dans quelque chose qui reste du marketing et en tout cas qui reste du cosmétique parce qu'on ne transforme pas profondément la culture de l'institution dans laquelle on est. Et du coup, les pratiques sociales et les rapports hommes-femmes.
Merci beaucoup, monsieur le directeur, pour ce témoignage. On a hâte de voir l'évolution de tout ce que vous allez mettre en place.
On espère.
En tout cas, on vous souhaite un bon courage et merci encore d'être venu avec nous à l'antenne.
Merci
Bonne journée.
Beaucoup. Au revoir.
Yeah. All of my girls looking good and they got their own money. Pop your shit, this is my girls from the spot, so they got their own funding. Knock your shit, run through your city, that motorcade. Soon as I enter, they close the gate. Presidential through your residential, bitch, it's nothing. Said fuck your rules as I move them right. Walk in a room and I set the fire. Get a pay, get a last you long. Whole team, they got some orders. You sit too far, I don't want them charged. So even ask me who's in charge. Red.
Et vous êtes toujours en direct sur RCF Alpes Provence et Fréquence Mistral à l'occasion de ce 25 novembre, journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Vient de nous rejoindre sur ce plateau en direct du FICAS de Gap, Madame Justine Honoré, déléguée départementale aux droits des femmes. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci de nous avoir rejoints. Alors, Madame la déléguée départementale aux droits des femmes, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de vos missions, justement, en tant que déléguée départementale ?
Donc mes missions, c'est de pouvoir décliner dans le département les politiques nationales d'égalité femmes-hommes. Il y a des politiques qui sont décidées au niveau national et une déclinaison régionale. On a une déléguée régionale aux droits des femmes. Et les déléguées départementales coordonnent l'action des acteurs qui agissent pour mettre en œuvre ces politiques sur tous les axes qu'elles comportent. La politique actuelle, il y a un plan qui se décline jusque 2027 qui est autour de 4 axes. L'axe principal, et dont on parle particulièrement aujourd'hui, c'est celui de la lutte contre les violences faites aux femmes. Et sur ces questions, il y a un travail de coordination et de partenariat entre tous les acteurs. C'est des parcours complexes et la question des fluidités des parcours des victimes est vraiment centrale. Donc il y a vraiment un intérêt à avoir des acteurs qui se connaissent, qui se coordonnent, qui travaillent ensemble dans l'intérêt des victimes. Et le projet de Maison des Femmes qui est présenté aujourd'hui, il a cet atout vraiment d'être un lieu ressource aussi pour tous les partenaires et les acteurs du territoire. C'est une question complexe où beaucoup de professionnels sont confrontés et ils sont aussi en recherche de lieux ressources qui leur permettent d'avoir des informations, des formations, de pouvoir échanger, de pouvoir aussi orienter des personnes qui peuvent rencontrer. Les autres axes de la politique égalité femmes-hommes sont la santé des femmes. Là aussi, le fait d'avoir une maison des femmes hospitalière, ça va être vraiment un atout pour le territoire. Ça va être un lieu aussi où les professionnels pourront plus spécifiquement aborder cette question de maison de santé des femmes. Il y a un axe d'égalité professionnelle et un axe d'égalité, de la culture de l'égalité. Donc ces deux derniers axes qui restent fondamentaux, on l'a dit, c'est vraiment une question sociétale, c'est une question globale, l'égalité femmes-hommes. Aujourd'hui, on parle plus spécifiquement des violences faites aux femmes, c'est une priorité, c'est une urgence. Mais voilà, il y a une politique très transversale.
Est-ce que vous pouvez nous parler de la culture de l'égalité en deux mots ?
En deux mots, c'est de pouvoir, dans toute la société, avoir une vision égalitaire des places des femmes, des hommes, des filles, des garçons. Et de travailler avec tous les acteurs qui peuvent traiter de ces sujets. C'est l'école, le périscolaire, les clubs sportifs, les crèches, les fédérations professionnelles, etc.
Mesdames, on va devoir rendre l'antenne. Merci d'avoir partagé ce témoignage
merci
avec nous. Merci chers auditeurs, auditrices. Merci Lucie. C'était un plateau super intéressant, très riche. Et encore une fois, la violence n'a pas sa place.
Et non, on le rappelle, le 3919, le numéro de Violence Femmes Info. Et puis s'il y a des situations d'urgence, il faut appeler la police au 17 ou les pompiers au 18. Restez en forme.
Et restez unis. ويضحك عليا ماسكينش بيديا محبتك جرح